Satellite, la radio autour de luxe. Le Dami et l'onde porteuse présentent une série de 8 épisodes au cœur des défis de cette vaste planète, des industries culturelles et créatives. Épisode 8, écrire ensemble un futur désirable.
Imaginez, un endroit où vous pouvez exprimer tous vos souhaits. Un endroit où votre avis compte, celui qui vous invite à repenser le monde de demain. Imaginez, un monde utopique, dystopique, post-apocalyptique, dramatique ou une société idéale. Tout le monde en est capable. C'est exactement ce que l'Assemblée citoyenne des imaginaires vous propose. Laissez libre cours à votre imagination et peut-être que votre histoire s'entrelacera à la nôtre. Au travers de vos rêves, essayez d'inspirer les autres et la façon dont le monde va se développer. C'est votre projet avec l'ADEME. Vous êtes chef du service mobilisation média. Bonjour Valérie Martin.
Bonjour Anthony.
Alors Valérie Martin, d'où vient l'idée de cette assemblée? Comment ce projet est né?
Avant de vous raconter comment ce projet est né, je voudrais juste revenir sur le monde dans lequel on vit. Les imaginaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce sont des imaginaires productivistes, consuméristes, technosolutionnistes et autres illimitistes. Et je pense que c'est important de peut-être imaginer qu'un autre monde est possible. Voilà, c'est un peu parti de cette idée-là. Deuxième point de départ, c'est est-ce que le citoyen ne pourrait-il pas reprendre sa place, c'est-à-dire celle de citoyen, et non pas celle uniquement d'un consommateur. Alors quand on s'est rencontré avec Valérie Zoïdo dans une marche pour le climat, c'est vrai. C'était en 2018-2019, il y en a eu beaucoup à cette époque-là, et avec Valérie Zoïdo, qui est à la fois autrice, réalisatrice, free-fileuse du changement, j'adore son nom, et bien en fait avec Valérie Zoïdo, on s'est dit, mais au fait, et si les scénaristes, si le monde de la télévision, du cinéma, des séries, était aussi un vecteur qui nous permettait de pouvoir faire accélérer et faire advenir cette transition écologique, faire advenir des mondes compatibles avec le vivant. Du coup, en 2019, j'ai eu la chance de pouvoir lui confier, au nom de l'ADEME, un travail sur cette question du storytelling dans les films, les séries, et de réfléchir justement à comment on pouvait faire émerger des films, des séries, des productions audiovisuelles qui mettent en avant, juste, qui soient plus compatibles avec le vivant. En 2022, fin 2022, on a lancé l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Valérie en est l'initiatrice et la conceptrice. Et avec le festival Atmosphère, c'est un festival qui est porté par Pascal Signolet depuis plus de 13-14 ans et qui se tient à Courbevoie tous les ans. Mais aussi avec la société Bluenov, qui a une grande capacité d'analyse justement des tendances. Et bien, tous les quatre, nous avons été partenaires fondateurs de cette Assemblée citoyenne des imaginaires, qui a regroupé aussi de nombreux partenaires, qui regroupe toujours de nombreux partenaires. On peut penser à TF1, au ministère de la Transition écologique, au CNC. On a travaillé ensemble pour voir comment, en fin de compte, on pouvait écrire de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant, c'est le fait que des acteurs aussi différents aient décidé de s'unir pour créer, pour lancer cette belle initiative très atypique, très collective et très unique.
Pour continuer dans cette lancée et aller un peu plus sur le concret, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les différentes étapes clés de comment s'organisent et fonctionnent ces assemblées?
On a lancé d'abord une première phase qui s'appelle « Écouter ». Cette phase-là, elle a permis de donner la parole aux citoyens, de façon à ce que, par le biais d'un questionnaire, ils puissent nous dire « mais voilà le monde ». Dont je rêve, le monde dont j'ai envie. Il y a eu plus de 55 000 contributions. Ça a été analysé donc, par Bluenov, hein, notamment, qui dispose des outils nécessaires. Et ça a été ensuite apporté dans un pot commun qui allait permettre notamment à des scénaristes de pouvoir, à leur tour, participer de façon à pouvoir rédiger, créer des œuvres culturelles. Deuxième étape, la formation. Très belle journée à l'Académie du climat le 11 mai dernier. Et dans cette journée-là, l'idée, c'était de pouvoir essayer de comprendre que chacun puisse comprendre quels étaient les enjeux. Et d'avoir accès à, justement, à la fois des citoyens, mais aussi à des experts, à des scénaristes. Et puis, on avait aussi 90 ambassadeurs, que nous appelons les imaginateurs, voilà, qui étaient, pour la plupart, présents, de façon à pouvoir essayer de voir comment, ensemble, on allait pouvoir construire ces futurs imaginaires. Et donc, nos 90 imaginateurs, ils ont animé en France tout un tas d'ateliers d'écriture collective qui nous ont permis de faire remonter près de 200 micro-fictions. Ces micro-fictions, elles sont en accès libre sur le site de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Et justement, elles vont avoir servi de base, on les a offertes, aux scénaristes professionnels. Vous voyez bien déjà là que je viens de vous parler de citoyens, d'experts et maintenant de scénaristes professionnels qui s'appuient sur des micro-fictions issus de citoyens profanes. Satellite.
Quelle place se partagent justement précisément les citoyens, les experts et les scénaristes dans ce processus ?
Mais justement, là, cette première partie, on a beaucoup les citoyens, on a beaucoup les experts qui viennent former les citoyens, mais qui viennent aussi former les scénaristes. Et donc, dans la troisième phase de ça, on a eu des séminaires de formation et d'expérimentation à destination des scénaristes professionnels. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on s'est tous mis d'accord dans ce projet d'Assemblée citoyenne des imaginaires sur le fait qu'on ne cherche pas à faire des sujets sur l'écologie, on cherche à faire de la pédagogie clandestine. La pédagogie clandestine, la pédagogie douce, c'est comment dans les traits de caractère même de nos personnages, dans les décors, eh bien, on va pouvoir insuffler cette dimension écologique sans en faire le sujet nécessairement majeur de notre travail. On a une étude qui s'appelle « Des récits et des actes » qu'on avait faite il y a quelques années, qui dit bien, moi quand je vais voir un truc sur l'écologie, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que je trouve ça un peu soin et donneur de leçons. Là, l'idée, elle est complètement différente. On a vraiment, véritablement envie de faire de ces œuvres des œuvres populaires, des œuvres qui donnent envie, des œuvres qui empuissantent. Et ce terme d'empuissantement, il est important parce qu'aujourd'hui, si on veut lutter contre cette forme d'éco-anxiété à laquelle nous sommes confrontés, si on veut pouvoir aller plus loin, alors il faut pouvoir donner aux gens des récits en capacitant, c'est-à-dire des récits qui vont nous permettre de passer à l'action. Et c'est ça la force aussi de l'Assemblée citoyenne des imaginaires.
Vous parlez d'empuissantement, vous parlez de mettre le citoyen au cœur de ce processus. Est-ce que, dans ce cas, vous définiriez ces assemblées citoyennes des imaginaires comme quelque chose de militant ?
C'est un engagement. C'est pas pareil, la militance et l'engagement. Pour nous, nous sommes des acteurs engagés. Quand on parle d'écologie, tout de suite, on vous dit « Ah mais c'est que vous êtes militant ». Non, le fait d'être engagé, le fait de vouloir faire advenir justement un monde qui soit compatible avec les limites planétaires, ça devrait être l'œuvre même de la société tout entière. On parle bien de la question de l'habitabilité de la Terre, on parle bien de la question de la survie de l'humanité.
En regardant ce festival, on sent vraiment l'émerveillement, j'ai envie de dire, la part de rêve qui se mélange à la réalité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ?
Mais oui, parce que si à force de proposer uniquement des dystopies, à force de parler uniquement de contraintes, on espère faire que les gens vont être empuissantés, en capacité, pardon pour ces termes-là, ben je pense que c'est assez mal parti. Et si on retrouvait l'émerveillement, la joie, si justement on allait davantage vers cette façon de regarder aussi le monde. On a besoin d'émerveillement, on a besoin de joie. Moins de bien, mais plus de lien. Et je pense que c'est ça aussi qu'on doit montrer que ça peut aussi nous rendre heureux. Mais qu'on soit d'accord. Bien sûr, il faut que pour l'ensemble des personnes, leurs besoins essentiels soient satisfaits. D'accord ? Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, cette question du rapport au bien et aux besoins, elle est absolument nécessaire du moment que les besoins essentiels sont satisfaits.
Moi, il y a une question qui me vient en vous écoutant. C'est, ça fait longtemps que dans les univers imaginaires, notamment la science-fiction, des problématiques d'aujourd'hui avaient déjà été envisagées par le passé. Les créateurs et créatrices d'imaginaires de l'époque n'ont pas été spécialement écoutés. Ce sont des univers qui sont souvent considérés comme peu sérieux par les personnes. Est-ce que vous pensez que ces imaginaires créés aujourd'hui par vos assemblées peuvent être pris au sérieux par les personnes, les décideurs de ce monde ?
Là où je pense qu'il y a une force, c'est le travail conjoint entre les citoyens, les experts, les scientifiques et les scénaristes. On a besoin de ça, justement, pour pouvoir changer aussi notre regard et pour pouvoir nous appuyer sur des travaux qui sont solides. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement. Et justement, le fait que de nombreux acteurs scientifiques pénètrent de plus en plus ce milieu, cette question des imaginaires, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement important parce que on voit bien le rôle de la culture et la responsabilité aussi des acteurs culturels dans les représentations de nos modes de vie. Se mettre à faire plus de pédagogie pour pouvoir être mieux écouté par les populations, je pense que ça peut aider fortement à ce que justement la co-création de ce type d'imaginaire fasse que on trouve qu'effectivement ce sont des scénarios qui sont crédibles et dans lesquels on a envie d'aller. Et c'est là où je trouve que ce qui se passe avec notre sujet, c'est un vrai débat de société, parce que la question qui nous est posée derrière, c'est dans quel monde voulons-nous vivre véritablement ? Quel mode de production ? Quel mode de consommation ? Quel mode de travail ? Quel mode juste de vivre ensemble ? Et puis il y a une autre chose, je pense que le fait aussi que beaucoup de collectivités territoriales s'engagent dans ces questions via la réalisation d'un certain nombre de planification écologique, je trouve que c'est absolument fort de voir comment ils se saisissent aussi de la chose culturelle. Et ça, je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant. Comment on fait aussi pour faire émerger des tiers-lieux ou des grénothèques ou des ripercafés qui vont mailler le territoire et qui vont me montrer concrètement à moi, citoyen, que c'est possible. Et donc, si dans l'œuvre culturelle, on montre que tout ça existe, que en plus sur le terrain, on voit que ça émerge, mais vous voyez bien qu'il y a une sorte de fil conducteur qui fait que ces imaginaires, mais c'est pas pour 2050, c'est déjà aujourd'hui. Et donc ça vous donne envie d'aller plus loin.
Merci Valérie Martin. J'aimerais qu'on termine cette interview en musique. Pendant la journée du 14 octobre, à la fin du festival Atmosphère, une chanson a été imaginée. Le choix des paroles a été donné aux citoyens, qui ont donc tous ensemble participé à l'écriture de celle-ci, avec Mika Apamien à la guitare et François-Charles Rouillet au saxo et percussion.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
Satellite, la radio autour de Lux.
Marchons, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir.